Mesdames et messieurs, bonsoir. Chacun doit répondre de ses actes devant une justice qui ne soit pas une justice de puissants contre les faibles. Ces mots sont contenus dans le mémo remis dernièrement par Mgr Laurent Monsengwo Fassignan, archevêque de Kisangani, au secrétaire général des Nations Unies Kofi Annan lors de sa visite à Kinshasa. Ce mémo qui relance le débat milite en effet pour la création d'un tribunal pénal international pour la RDC, à même de juger tous les dossiers relatifs aux crimes de sang à grande échelle commis entre 1996 à nos jours, voire plus tôt. L'institution de ce tribunal entraînerait sans nul doute l'ouverture de la boîte des Pandore où seraient entassés pêle-mêle des massacres décriés tant par la communauté internationale que nationale. On se souviendra ainsi entre autres des massacres d'Ankoro, village incendié par les FAC du gouvernement de Kinshasa et civils tués en grand nombre en octobre 2002. Les pygmées à Mambasa avec l'opération Effacer le tableau de l'armée du MLC en décembre 2002. Les massacres des Makobola et des Kasika où hommes, femmes et enfants ont été enterrés vivants par l'armée du RCD en 1999. Les massacres des Kisangani et des Mbandaka avec des réfugiés hutu-rwandais enterrés dans des fosses communes par l'armée des LAFDEL en mars et juin 1997. Des bébés malades morts dans les hôpitaux de Kinshasa et du Bas-Congo en août 1998 à la suite d'une coupure d'électricité au barrage Dinga par l'armée du RCD pendant un mois. Est-ce qu'un tribunal pénal international spécial pour la RDC pourra répondre aux attentes des victimes? Pour répondre à cette question, nous avons trois invités dans ce studio. Mukadi Boni, avocat à la Cour suprême de justice et professeur de droit. Nsambai Lukusa, président à la Cour d'appel et président du syndicat autonome des magistrats. Et Dieudonné Dikou, secrétaire général de l'Observatoire congolais des droits de l'homme.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez poser des questions à nos invités? Par SMS, composez-le 081 051 57 78.
Nous disons donc bonsoir à tous nos invités et nous disons également merci d'avoir répondu à cette invitation. Et mesdames et messieurs également, bonsoir à vous qui nous suivez chez vous. Nous allons commencer cette émission par d'abord expliquer à nos auditeurs dans quelle logique les juridictions pénales internationales ont été mises en place par les États depuis la Seconde Guerre mondiale. Quelles sont les infractions qu'elles sont appelées à connaître et pour quels pays jusque-là ces tribunaux internationaux ont été institués. Et c'est dans ces explications de Claude Kianza.
Les tribunaux pénaux internationaux n'ont pas pour but de juger toutes les infractions commises par des individus à l'échelle internationale, mais seulement les crimes les plus graves. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, deux juridictions avaient été créées, le tribunal militaire international de Nuremberg en août 1945 pour juger les criminels de guerre nazis et le tribunal international pour l'Extrême-Orient chargé de juger les criminels de guerre japonais. Trois catégories d'infractions internationales avaient été définies dans le statut du tribunal de Nuremberg, les crimes contre la paix, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Le crime contre la paix se rapproche du crime d'agression. Le crime contre l'humanité était défini comme l'assassinat, l'extermination et la réduction en esclavage, la déportation et tout acte inhumain commis contre les populations civiles avant et pendant la guerre. Tandis que les crimes de guerre représentent les violations des lois et coutumes des guerres. Par exemple, l'assassinat des otages, le pillage des biens publics et privés, l'assassinat et le mauvais traitement des prisonniers de guerre. Mais c'est en janvier 1997 que l'Assemblée générale des Nations unies appelait à la création d'une Cour pénale internationale. L'urgence et la mise en place de cette instance étaient dictées par les crimes contre l'humanité perpétrés en ex-Yougoslavie et au Rwanda. Et en l'absence d'une juridiction pénale internationale permanente, le Conseil de sécurité des Nations unies créait deux tribunaux pénaux internationaux ad hoc pour le Rwanda installés le 8 novembre 1994 et le tribunal pénal spécial pour la Yougoslavie. Ces deux tribunaux ont été créés pour juger notamment des crimes de génocide et des crimes contre l'humanité commis dans ces deux pays.
Et pour étayer cet encadré de notre confrère Claude Kianza, je vous invite également à suivre ses témoignages. C'est un témoignage parmi les crimes notés avant juillet 2002. On note les décès de plusieurs nourrissons prématurés à l'hôpital général de Kinshasa, décès survenus lors de la coupure d'électricité et de fournitures en eau au mois d'août 1998, à la suite donc d'une coupure d'électricité au barrage d'Inga par l'armée du RCD pendant un mois. Et nous allons écouter ici les témoignages du docteur Mouyila, le chargé de pédiatrie à l'époque et chef du département néonatologie de l'hôpital général de Kinshasa, joint au téléphone par notre confrère Berry Franklin Luchaka.
Mois d'août 1998, vous savez, quand il y a coupure, nous avions beaucoup de difficultés et surtout encore ce qui concerne les enfants qui sont nés avant terme, c'est-à-dire les prématurés. Ces enfants-là étaient dans le couveuse pour maintenir leur température, qu'elle soit une température normale. Et ces enfants-là avaient aussi des problèmes de détresse respiratoire. Alors, le manque de courant a fait que ces enfants soient plongés totalement dans l'hypothermie, c'est-à-dire diminution de leur température, et n'étaient pas en mesure de pouvoir se protéger, se défendre au point de vue immunologique. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de conséquences, c'est-à-dire nous avions eu beaucoup de décès à cette période-là. En plus de cela, les infirmiers n'étaient pas habitués de travailler dans le noir. Il fallait chercher d'autres moyens de faire face à cela, non seulement les infirmiers, mais aussi des médecins pour secourir ces enfants-là. Donc il y a eu beaucoup de conséquences, et les conséquences la plus grave, c'est la mortalité qu'on a remarqué qui était très élevée que normalement. Voilà ce que je peux dire pour ce qui s'est passé après cette coupure de 98. Eh bien, dans 12 heures de ces enfants, il était difficile de le faire survivre. Quoi.
Quelle a été votre réaction lorsque vous avez vu la mortalité s'élever du coup en ces temps-là?
C'était que regrettable. Nous avons été d'abord déçu de cette façon d'agir, parce que en général on n'a pas pensé que le courant est utilisé pour beaucoup de gens pour sauver et le nouveau-né comme aussi d'autres personnes qui étaient dans le besoin.
Et quelle a été la réaction des parents dont les enfants ont été victimes de ce crime-là?
Elle était encore plus vive, la réaction était vive, c'était même de la colère contre ceux qui ont décidé ces choses, parce qu'on a touché aux âmes, il y a des âmes qui sont mortes, c'est-à-dire ces enfants-là étaient décédés à cause de cela.
Oui, nous revenons donc dans ces studios avec nos invités et nous commençons par vous, Monsieur Sambaye Lukusa. Je rappelle que vous êtes président de la Cour d'appel et président du syndicat autonome de magistrats. Est-ce que c'est fait au fait que vous venez de suivre là et qui remonte il y a plus de 8 ans, pour ne prendre que cet exemple-là parmi tant d'autres, pourrait entrer dans la coupe des crimes contre l'humanité qui demanderait réparation de la part de ses auteurs et l'institution d'un tribunal spécial pour la RDC?
Oui, madame, je ne sais pas pourquoi vous vous limitez tout simplement aux crimes contre l'humanité. Il y a même des crimes de guerre. Quand vous savez qu'il y a des conventions internationales qui réglementent les opérations de guerre, il y a des choses qui sont permises et des choses qui ne sont pas permises. Mais si vous devez entrer dans un pays, couper le courant, molester certaines personnes qui sont censées être protégées en période de guerre, par exemple les bébés, par exemple les vieillards et tout ça, ça rentre dans cette catégorie-là.
Et pour donc, vous comprenez, ces infractions ou bien ces crimes demandent...
Vous comprenez que, étant donné que la mémoire collective du peuple congolais, étant donné que l'ordre public congolais a été perturbé et que jusqu'à aujourd'hui, les victimes diverses de ces actes-là aspirent à une certaine réparation. Étant donné que cette mémoire collective est encore présente et que, en dépit de tout ce qu'il y a eu comme négociation et arrangement, on n'est pas arrivé à réconcilier notre peuple, je pense que c'est une occasion pour que la population se sente quelque part soulagée.
Et pour cela, il faut créer un tribunal pénal international pour la RDC.
Par la mise au point d'un tribunal pénal pour le Congo.
et ce tribunal pénal international pour la RDC aura quoi comme objectif?
Aura comme objectif de soulager les populations congolaises perturbées, préjudiciées par ces opérations de guerre menées à diverses époques. Cela aura aussi pour effet de rétablir plus ou moins l'ordre public dont les méfaits se font encore ressentir jusqu'à aujourd'hui. Dans l'énumération des faits que vous avez faites tout à l'heure, vous avez oublié les crimes ou les opérations c'était, comment on appelait ça, les crimes de Katekelaï à l'époque de Mobutu. Il y a des gens qui ont été massacrés sauvagement dans une prairie en Bujna quelque part, alors qu'ils étaient en train de creuser le diamant, on les a assimilés je ne sais pas à qui, et ils ont été sauvagement, vous comprenez, ce sont des choses que la population a encore en mémoire et il faut que cette mémoire-là soit respectée, et cela surtout, et je souhaiterais que cela se fasse au Congo où l'ordre public a été perturbé.
Merci beaucoup. Il y a Ramesh de Bukavu qui pose une question à vous, toujours, Monsieur Samba et Lukusa. Un tribunal pénal international pour la RD Congo est une bonne chose, mais qui doit mener les démarches pour obtenir l'autorisation de sa création, car la plupart des présumés criminels sont aussi ceux qui sont aux commandes des affaires.
Vous savez les gouvernants, c'est des gens qui sont en place, qui ne veulent pas en partir et qui veulent voir leur volonté et leur politique s'investir. Il appartient aux forces vives de ce pays. Nous tous, vous les journalistes, les syndicalistes, les professeurs, les ONG, de s'investir dans ce combat-là pour obtenir, faire pression sur la communauté internationale pour la création de ces tribunaux. Si vous attendez que les gouvernants qui sont en place fassent un effort, je pense que c'est de la peine perdue.
Nous allons sûrement poursuivre ces débats dans quelques instants. Le temps pour vous de suivre ce que nos auditeurs pensent de l'institution d'un tribunal pénal international pour la RD Congo.
Bonsoir, Boy Munganga. Nous commencerons cette tranche d'opinion avec Antoine Kizanga à Kananga. C'est bien de créer un tribunal international pour la RDC afin d'arrêter tous les malfaiteurs et voleurs congolais. C'est vraiment une bonne idée. Shukurani Biamungu à Aru dans la province orientale, comme la Cour pénale internationale a refusé de juger des crimes commis avant 2002, qu'on laisse à la Cour suprême de justice de la RDC s'occuper des infractions ou des crimes commis par nos autorités politiques pendant cette période. Douglas Moussampa à Bukavu dans le sud Kivu, c'est inutile de créer un tribunal pénal international pour le Congo, car en ce moment, Thomas Lubanga a déjà été transféré à la Hague, siège de la Cour pénale internationale. Dalton Omvuzo à Beni, dans le Nord Kivu, c'est mieux d'ouvrir un tribunal en RDC, mais qu'il n'y ait pas de corruption et de parti pris dans les jugements. Les fautifs doivent être sanctionnés sans distinction de rang social ni de tribu.
Oui, c'était là notre consoeur Thérèse Bassouvi qui nous résumait un peu les opinions des auditeurs recueillis avant même cette émission. Et Monsieur Mokadi Boni, vous êtes avocat à la Cour suprême et professeur des droits. Dans ces opinions, on entend des auditeurs qui disent qu'on laisse par exemple aux juridictions congolaises de s'occuper de ces affaires-là. Qu'est-ce que vous pensez de cette opinion de cet auditeur-là?
Voilà une opinion intéressante, mais qui démontre que la personne qu'il aimait ne vit pas au Congo. Puisque lorsqu'on vit au Congo et que l'on suit le combat que mène, et je suis heureux d'ailleurs que le président du syndicat des magistrats, M. Nsambaï Moutenda Lukusa, soit présent, le combat qu'il mène, c'est pour arriver à l'indépendance de la justice. Il y a un problème sérieux. Et dans les conditions actuelles, ces combats n'a pas encore abouti, il y a beaucoup à faire. C'est la raison pour laquelle, et la technique est connue, il faut arriver à créer un tribunal pénal international qui est indépendant, qui ne peut pas recevoir des injonctions de l'exécutif et qui peut arriver à juger objectivement tous les auteurs des infractions, des crimes que vous avez décrits, mais il faut bien entendu préciser que durant la transition, il y a plusieurs techniques qu'on peut utiliser pour arriver à réparer les crimes qui ont été commis.
Oui, parce que selon vous, jusque-là, les juridictions congolaises ne sont pas à même de juger ces crimes-là ou bien n'ont pas de moyens pour le faire.
Ce n'est pas un problème des moyens, c'est un problème, bon, plus que des moyens. Le principe même de l'indépendance de la magistrature. Le président du syndicat qui est là se bat pour ces principes.
Parce que les magistrats congolais ne sont pas indépendants.
Ils ne sont pas indépendants, ils sont à la limite chosifiés et depuis de nombreuses années, ils se battent pour obtenir cette indépendance qui est pourtant affirmée, mais ils ne l'ont pas. Et c'est la raison pour laquelle lorsqu'on dit que les juridictions actuelles peuvent s'occuper de ces problèmes, j'ai dit mais il y aura un problème parce que elles n'ont pas nécessairement les mains libres. Donc il faut en tenir compte. Elles ne sont pas indépendantes malgré que le principe est affirmé.
Qu'est-ce que vous pensez par exemple de cet auditeur, donc Freddy Kakenda de Lubumbashi, qui lui pose exactement presque la même question. Pourquoi nos cours et tribunaux n'instruisent pas les dossiers des criminels de guerre mais attendent que la Cour pénale internationale réagisse?
Bon, mais les cours et tribunaux pour instruire tous ces dossiers doivent en avoir les moyens. Je suppose qu'à Lubumbashi où il s'est déjà rendu au palais de justice pour voir que parfois il manque même du papier, etc. Les magistrats n'ont aucun moyen pour pouvoir le faire. Et ils ne peuvent pas, dans ces conditions-là, mener des enquêtes qui nécessitent des gros moyens, précisément.
En plus.
Oui, pour compléter.
En plus de ces moyens, il y a des mécanismes, il y a des procédures qui les interdisent d'entrer en action. Imaginez que ce soit le président de la République, que ce soit un vice-président de la République qui est mis en cause. Quel est ce tribunal congolais? Quel est ce magistrat congolais qui prendra le courage de l'inviter? Et même s'il l'invitait, viendrait-il? Voilà, autant de blocages.
Mais est-ce que vous ne pouvez pas, par exemple, suivre l'expérience, par exemple, du Rwanda avec Bienvenue Ndaga Duvira qui dit pourquoi ne pas faire comme au Rwanda avec les Gachacha afin de juger tous les criminels des 1967 jusqu'à nos jours?
Mais le cas, ça va de soi. Au Rwanda, qui est l'initiateur de cela? C'est le président de la République qui est consentant. Donc, c'est le gouvernement en place qui est consentant.
Donc, pour que les juridictions congolaises s'investissent, au fait, oui, dans le traitement de ces dossiers, il faut que les autorités...
Il y a ce blocage-là, il y a des lois de la République qui font que telle ou telle autre juridiction ne puisse pas entrer en activité vis-à-vis d'une infraction commise, vis-à-vis d'un auteur connu. C'est autant des choses qui font que les juridictions ont les mains liées. Et c'est là pertinemment que le professeur a parlé de l'indépendance du pouvoir judiciaire.
Donc, pour conclure, selon vous, il faut donc instituer un tribunal pénal international parce que jusque-là, on remarque que les magistrats ne sont pas tellement indépendants ici en RD Congo.
Madame, non seulement ils ne sont pas indépendants et qu'il faut constituer ce tribunal pour cette raison-là, mais vous vous souvenez bien qu'on a même, à l'issue du dialogue intercongolais, créé ce qu'on appelait la commission vérité et réconciliation, qui, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, et si vraiment on peut dire que cette commission a pu faire son travail. Elle était pourtant chargée de mener des enquêtes, mais, et même depuis les 60 jusqu'à la fin de la transition. Bon, lorsque vous dites, on l'a dit 96, même au-delà, bon, il a cité le cas des Katekelaï, mais je dirais, il y a même ces génocides kassaïens au Katanga qui est oublié, qui doit également faire l'objet des investigations au niveau de ces tribunaux pénales internationaux. C'est vraiment important, on doit y arriver. Il y a, mais c'est depuis 60, il faut prendre tous les crimes qui ont été commis et essayer de faire en sorte que les auteurs qui ne sont pas encore décédés puissent en répondre.
Merci beaucoup donc pour ces réactions. Nous retenons que vous êtes pour la création d'un tribunal pénal international pour la RD Congo. Mais il y a d'autres opinions qui pensent que le tribunal pénal international ne pourra pas, par exemple, arriver à résoudre tous les maux ou bien congolais parce qu'il y a des difficultés par-ci par-là. Alors, les tribunaux pénaux internationaux, comme disent certaines opinions, travaillent dans un environnement international difficile, d'où certaines faiblesses constatées dans leur fonctionnement. Ici, avec notre confrère Claude Kianza, nous allons soulever quels problèmes rencontrent ces juridictions pénales internationales. Analyse donc de Claude Kianza.
Les tribunaux ad hoc, comme le tribunal pénal international pour le Rwanda et le tribunal pénal pour la Yougoslavie, connaissent plusieurs dysfonctionnements selon plusieurs rapports à la fois internes et externes aux deux institutions. Il s'agit notamment de lourdeurs administratives et de la lenteur des procédures. Tenez, depuis que le tribunal pénal international pour le Rwanda a commencé ses activités en novembre 1994, 15 affaires ont été terminées, 5 accusés ont été relâchés, 15 affaires sont encore en attente. Toutefois, 28 affaires sont en cours et 8 jugements en procès en appel. Selon l'International Crisis Group, une ONG basée à Bruxelles, dans son rapport de juin 2001, se montrait très critique vis-à-vis du tribunal pénal international pour le Rwanda. Selon cette ONG, l'urgence de ce tribunal ad hoc semblait avoir été oubliée dans les dysfonctionnements quotidiens et le combat bureaucratique interne. Comme on le voit aussi, ces tribunaux sont lents parce que ces juridictions internationales tiennent à donner un caractère exemplaire à leurs sentences, ce qui fait que ces tribunaux coûtent cher. Pour parer au plus pressé, le gouvernement rwandais a trouvé bon, par exemple, d'instituer des tribunaux gachacha pour juger rapidement ceux qui sont accusés d'avoir participé au génocide.
Merci donc à notre confrère Claude Kianza. Vous venez de suivre donc les problèmes soulevés par la création des tribunaux internationaux ad hoc dans certains pays, dont un pays voisin de la RD Congo, le Rwanda. Et je passe directement la parole à Dieudonné Diku, secrétaire qui est secrétaire général de l'Observatoire congolais des droits de l'homme et qui est également avec nous dans cette émission et dans ces studios. Est-ce que le tribunal pénal international répondra aux attentes des victimes, selon vous?
Par ma position par rapport à cette question est la suivante. Il faut rappeler, faire un bref rappel historique pour dire que, au cours du dialogue intercongolais, une des résolutions qui avait été votée par ce forum national était la mise sur pied d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo. Force est de constater qu'à ce jour, ce tribunal n'a pas été mis sur pied, malgré les déclarations officielles des pouvoirs publics, notamment le président de la République, la ministre des Droits humains, dans les forums internationaux. À ce jour, et sauf erreur de ma part, aucune requête officielle du gouvernement de la République n'a été introduite auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Quelles conséquences
Une requête. Oui. Aucune requête n'a été introduite à ce jour par le gouvernement congolais pour demander au Conseil de sécurité la création d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo. Oui. Ça, c'est de 1. De 2, force est de constater également que le tribunal pénal international, le Conseil de sécurité n'a pas pris une résolution dans ce sens, puisque lorsqu'on a suivi les éléments tout à l'heure sur l'historique des tribunaux pénaux internationaux ad hoc, le cas du Rwanda et de l'ex-Yougoslavie, le Conseil de sécurité n'a pas attendu une requête, il l'a créé par une résolution compte tenu de la gravité des violations des droits de l'homme et des droits sociaux humanitaires qui ont été perpétrées dans l'ex-Yougoslavie et au Rwanda.
Oui.
En plus de cela, madame, force est de constater que les critiques sont formulées à l'encontre des tribunaux pénaux internationaux ad hoc dans leur formulation actuelle. Parmi ces critiques, il faut relever d'abord premièrement le fait que ces tribunaux pénaux internationaux sont situés loin des territoires où sont perpétrés les crimes internationaux et les graves violations des droits de l'homme. Mmh. Arusha pour le TPIR et l'AE pour les crimes perpétrés en ex-Yougoslavie. Ça, c'est le premier grief, si vous permettez que je qualifie cela ainsi. Deuxième grief, c'est le fait que ces tribunaux pénaux internationaux, lorsqu'ils sont intégrés, ils n'ont aucun impact positif sur le système de justice pénale nationale. Ils sont introduits à l'AE pour le TPIY, à Roche pour le TPIY, aucun impact positif en termes de renforcement des capacités des magistrats, en termes d'équipement, d'amélioration des infrastructures, d'équipement bibliothèque pour les tribunaux pénaux nationaux. Il n'y a aucun impact. S'il vous plaît, laissez-moi continuer, madame. Et troisièmement, il y a un des griefs perpétrés, le troisième grief, c'est le déficit dans ce que je pourrais qualifier d'approche victimocentrique. Permettez-moi d'expliquer. La participation, la protection et la réparation des victimes et des témoins n'est pas suffisamment organisée dans les tribunaux pénaux internationaux. En plus de cela, le quatrième grief, c'est le caractère coûteux. D'ailleurs, dans un document du secrétaire général adressé au Conseil de sécurité de 2004 et intitulé « Justice après transition », le secrétaire général des Nations Unies, M. Kofi Annan, a mis en exergue le caractère coûteux de ces tribunaux. Alors, faut-il pour autant faire table rase des crimes qui ont été perpétrés dans notre pays, des crimes internationaux? Non.
Oui, et c'est pour cela, en fait, je vous demande, comme vous semblez n'est pas milité pour la création donc d'un tribunal pénal international pour la RD Congo, quelle proposition vous faites à ce jour pour que les crimes perpétrés d'abord avant 2002 ou peut-être après 2002 également soient jugés et poursuivis?
Bon, voilà. La proposition est la suivante. L'idéal aurait été d'abord que ce soit les juridictions congolaises qui connaissent de ces crimes. Ce aurait été l'idéal, puisque ces crimes ayant été perpétrés en République démocratique du Congo, les juges congolais, les victimes et les témoins et les auteurs présumés, surtout en République démocratique du Congo, ça aurait été l'idéal que ce soit les tribunaux congolais. Mais comme vous le savez, une des faiblesses de notre justice, c'est le manque d'indépendance, comme l'ont relevé aussi bien le professeur Moukadi que M. Nsambaï, et je partage totalement cet avis, dans l'absence de moyens. C'est ainsi que nous avons essayé de réfléchir l'année passée lors d'un atelier sur cette question. Les conclusions ont été que, en lieu et place d'un tribunal pénal international, et compte tenu des griefs mis à charge, enfin reprochés aussi bien au TPI, au tribunal pénal international, qu'à une juridiction congolaise, qu'on puisse imaginer ce qu'on appelle des juridictions spéciales mixtes.
Oui, c'est-à-dire
composées des juges congolais et des juges internationaux.
En quelque sorte, une juridiction congolaise, mais institutionnalisée.
Oui, avec donc des juges congolais et des juges nationaux. Mm-hmm. Cette option, cette alternative présente des avantages. Après, premièrement, il permettra à nos juges congolais de connaître de ces crimes. Ça, c'est très important. Ces juridictions mixtes seront créées à l'intérieur des tribunaux congolais, c'est-à-dire là où se trouvent les victimes, là où se trouvent les auteurs, là où se trouvent les témoins présumés. Les témoins présumés. Deuxième élément, madame, je pense que la présence des juges, des procureurs, même des greffiers et des enquêteurs nationaux et étrangers pourra justement avoir un effet dissuasif sur la tendance du pouvoir politique à vouloir interférer dans la gestion de la justice et de mettre à mal l'indépendance du pouvoir judiciaire.
Oui, effectivement, comme vous soulevez un peu ce point-là, parce que c'est la préoccupation en fait de nos auditeurs, Didier de Lubumbashi, lui, veut savoir si le tribunal, par exemple, international, ou bien même si on venait à mettre sur pied des chambres spéciales mixtes au sein des juridictions congolaises, est-ce que ces juridictions va juger aussi ceux qui se trouvent au gouvernement?
Ah, mais madame, justement, il faut maintenant ça dépend du contenu qu'on devra donner à ces juridictions, à la compétence matérielle, territoriale et personnelle des chambres spécialisées mixtes. Oui. Et moi, je suis tout à fait d'avis qu'un des principes, c'est le défaut de pertinence de la qualité officielle qui permettrait ainsi de poursuivre, toute personne, quelle que soit la fonction qu'il exerce, qu'il soit chef de l'État, chef de gouvernement, ministre, général, PDG, etc., qui est présumé avoir commis des crimes internationaux graves et des violations graves des droits de l'homme.
Oui, un autre auditeur anonyme, au fait, soulève également ce même problème. Il dit, est-ce que ces institutions seront-elles capables de poursuivre, par exemple, un président élu, ou bien va-t-on assister à cette comédie semblable à celle des ministres qu'on avait simplement limogé après avoir détourné des fonds de l'État? La question est posée à vous, Monsieur Moukadi Boni, avocat à la Cour suprême et professeur de droit.
Bien, écoutez, il a répondu déjà à la question en disant que tout dépendra de la compétence personnelle, matérielle, etc., qui sera reconnue, selon lui, aux chambres mixtes et selon nous, au tribunal pénal international, puisque les modalités, on peut, en ce qui concerne, il faut être d'accord sur les principes, nous sommes d'accord sur les principes qu'il faut créer une juridiction qui peut connaître de ces crimes, quelle que soit la chose. Et alors, le chef de l'État...
Que ce soit un tribunal pénal international ou bien une chambre...
L'appellation, la dénomination importe peu. Ce qui est important, c'est d'arriver à poser le principe que tous les criminels, quels qu'ils soient, doivent être poursuivis. Bon, en ce qui concerne le chef de l'État, je sais que la constitution actuelle, et j'ai dû critiquer le principe, la constitution actuelle prévoit que lorsqu'on est élu, pendant la période qu'on est au pouvoir, on ne peut pas être poursuivi pour les crimes commis, il faut attendre. Mais là, c'est la constitution actuelle. Si on prévoit, on institue un tribunal pénal international, on va lui donner des compétences qui lui permettront, même dans ce cas-là, de dire, attention, il a commis, par exemple, un crime de génocide ou tel crime, on va les poursuivre et il pourra être poursuivi. Donc, il est important qu'on pose clairement les principes. On verra, en ce qui concerne les modalités d'application, on peut associer les magistrats congolais, qui sont compétents d'ailleurs, qui peuvent bien faire le travail.
Et oui, puis, ce serait non-sens qu'il ne soit pas jugé, parce que, qu'est-ce que l'on vise? C'est le fait que ce sont les gouvernants, pour la majorité, qui sont au pouvoir, ou qui ont été au pouvoir, qui sont pour la plupart du temps les auteurs de ces faits-là. Mais si alors on sort une juridiction qu'on met en place et qu'on exclut ces gens-là, ça ne sert à rien de créer une pareille juridiction.
Donc je signale là que le président de la Cour d'appel et président du syndicat autonome des magistrats, M. Samba Iloukoussa, qui intervenait. Est-ce que cette institution pourrait également répondre à la préoccupation de Mgr Mosengo, qui veut que justice soit rendue, mais par un tribunal équitable? D'ailleurs, je vous laisse plutôt suivre sa préoccupation et son argumentaire pour la création d'un tribunal pénal international.
En principe, chacun doit répondre de ses actes devant la justice, à condition naturellement que la justice ne soit pas une justice politique, mais une vraie justice indépendante, pour que cette justice ne soit pas politique. Si donc, comme nous venons de voir, une cour pénale internationale a été créée et qui n'a compétence que pour les crimes commis à partir de 2002, il ne serait pas juste que des crimes similaires qui ont été commis avant cette date dans notre pays ne soit pas jugé par un tribunal pénal international de même niveau et de même qualité. Et donc, en résumé, chacun doit répondre de ses actes devant une justice qui ne soit pas une justice politique, c'est-à-dire une justice des puissants contre les faibles.
Oui, donc, quelle que soit son appellation, que ce soit des chambres spéciales mixtes au sein des juridictions congolaises, que ce soit un tribunal pénal international, Mgr Mosengo recommande que ça ne soit pas une justice de puissant contre le faible. Et Monsieur Samba Iloukoussa, qu'est-ce que vous pensez de cette réaction de Mgr Mosengo?
C'est à juste titre que Mgr Mosengo se prononce dans ce sens, parce que à quoi ça servirait de créer une juridiction qui ne jugerait que les minables individus, en laissant vaquer à leurs occupations les véritables criminels investis et intronisés au pouvoir. Ça ne servirait absolument à rien. Et c'est pour cela que nous revenons toujours sur la même chose, et Mgr Mosengo l'a encore une fois relevé, que nous revenons sur l'indépendance du pouvoir judiciaire dans toutes ses dimensions. Et vous voyez que depuis 3 ans, en dépit du combat que nous menons, les hommes au pouvoir refusent de nous accorder cette indépendance. Et cela, ils continuent à intervenir chaque jour ici. Mais la volonté est bien claire. Est-ce qu'il faut aller chercher à côté pour découvrir que, quelque part, les gouvernants ne veulent pas d'une justice indépendante et crédible?
Oui, est-ce que vous de donner 10 coups qui militaient pour la création des chambres spéciales mixtes au sein des juridictions congolaises, vous pensez que ces chambres-là spéciales mixtes pourraient arriver à faire la justice en même temps des faibles et des puissants?
Premièrement, madame, je pense que avant de répondre à votre question, je dois faire de quelques observations. La première est la suivante. On parle depuis un certain nombre de démocratie, on nous rabâche les oreilles à longueur de journée. Laissez-moi vous dire une chose, madame. Il n'y aura pas de démocratie en République démocratique du Congo aussi longtemps qu'il n'y sera pas de justice. Ça n'existe pas. Démocratie sans justice, c'est un cautère sur une jambe de bois. Ça n'existe pas. Deuxième, en ce qui concerne la lutte contre l'impunité, elle doit être totale et intégrale. C'est-à-dire quoi? On ne peut pas d'une part, poursuivre devant la Cour pénale internationale les auteurs des crimes internationaux perpétrés avant le 1er juillet 2002, et d'autre part, laisser dans le champ de l'oubli de l'impunité les auteurs des mêmes crimes, mais perpétrés avant le 1er juillet 2002. Premièrement, ça n'aura aucun sens, ça ne permettra pas la réconciliation nationale, et surtout, ça ne sera un manque de respect criant vis-à-vis des victimes qui se sentiront méprisées, marginalisées, laissées pour compte par rapport aux victimes des infractions relevant de la compétence de la Cour pénale internationale.
Oui,
pour revenir à la question des chambres spécialisées, il est évident, il est important que le contenu, au regard notamment des principes, référence au principe contenu dans l'article 14 du pacte relatif aux droits civils et politiques qui donne les conditions exigées pour que un procès puisse être un procès équitable. Les garanties minima internationales pour qu'un procès puisse être équitable. Il faudrait évidemment dans le texte qui rend ces chambres spécialisées que ces garanties soient contenues. Et pour peut-être éclairer votre religion, dans notre entendement, la création des chambres spécialisées nécessite bien entendu l'implication active de la communauté internationale pour être mise sur place.
Oui, il est de notoriété publique que les Congolais savent bien parler. Et je voulais vous demander à vous quelles sont les actions concrètes que vous faites pour que finalement qu'il y ait une institution pour connaître de tous ces crimes-là commis avant juillet 2002 et même après. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Quelles sont les actions que vous posez vous-même en tant qu'homme des droits? Cette question, je la pose à Moukadi Boni, qui est avocat à la Cour suprême et professeur des droits.
Mais oui, bon, je vais répondre pour ma part. Ce que j'ai fait en tant que professeur de droit, chargé de l'enseignement et de la recherche, j'ai sensibilisé mes étudiants, d'une part, et d'autre part, j'ai écrit, et sur ces points-là, j'ai produit des rapports pour les comptes de la Banque mondiale pour insister sur l'indépendance de la magistrature. Et ce qu'un professeur de droit peut faire, c'est cela. Je n'ai pas une radio à moi où je peux à longueur de journée expliquer cela et être suivi à travers la République. Là, c'est vous faites bien de nous inviter de temps en temps pour que nous puissions expliquer cela. En tant qu'avocat également, par des conseils appropriés, puisqu'il m'arrive de discuter, même dans les forums internationaux, avec des collègues, des confrères, nous insistons pour arriver effectivement à la création de ces tribunaux. Voilà ce qu'un professeur de droit peut faire, et c'est une action qui est tout à fait complémentaire avec ce que Dieudonné est en train de faire dans ce domaine, et surtout avec ce que le président Nsambaï Mutenda Lukusa fait également en tant que président du syndicat des magistrats.
Là, vous répondez pour tout le monde, là. Mais est-ce que Monsieur Sambaï Lukusa, je rappelle encore que vous êtes président de la Cour d'appel et président du syndicat autonome des magistrats, est-ce qu'il faut attendre que les autorités congolaises fassent un pas pour la création de cette institution internationale ou des institutions congolaises mais internationalisées, pardon?
Non, il ne faut pas attendre que les autorités congolaises fassent le pas parce que on risque de trop attendre, de ne jamais les voir faire ce pas-là. Mais en ce qui me concerne, moi, vous avez bien dit aux téléspectateurs, disons, à vos auditeurs, que je suis syndicaliste. Le syndicaliste ne va pas faire la guerre, le syndicaliste ne va pas faire la politique, il fait la politique syndicale. Donc c'est un combat que nous menons sur le terrain qui est le nôtre, c'est-à-dire la bonne administration de la justice, et nous pensons qu'en menant ce combat-là, les énergies que nous dépensons sensibilisent, inspirent les autres, ceux qui ont la main à la pâte, pour faire ce qui peut être fait pour la création de ces tribunaux-là.
Oui, effectivement, il y a une autre question de nos auditeurs. Il s'appelle Kansenzera, il est de Beni. Lui, il pose une question à Monsieur Dieudonné Biku, qui parle d'une institution congolaise internationalisée. Est-ce que cette institution sera compétente pour juger certaines personnalités rwandaises et ougandaises impliquées dans les crimes en RD Congo?
Bon, ça dépendra, comme une fois de plus, du contenu. Lorsqu'on va parler de la compétence territoriale, je ne sais pas s'il est possible d'introduire une clause, d'extraterritorialité dans les textes créant les chambres spécialisées. Donc, ça, c'est une question, qui peut être mise à l'étude et envisagée.
Non, parce que jusque-là, les propositions que vous faites n'ont pas vraiment été étudiées en profondeur. Donc, ce sont des propositions, des paroles qui, jusque-là, ne sont pas concrètes.
Je pense, pour le compléter, que c'est monsieur les Rwandais qui ont commis ces faits-là au Congo, qui sont connus, identifiés, qui se trouveraient en Ouganda, disons, au Rwanda ou en Ouganda, il faudra qu'on puisse prévoir.
Mais on parle aussi des Congolais.
Parce que aussi bien que les Congolais ou les Rwandais qui se trouveraient maintenant au Rwanda devraient être poursuivis. Et nous devrons faire un effort pour qu'il en soit ainsi.
Mais jusque-là, ce sont des paroles.
Mais qu'est-ce que vous voulez? Nous n'avons pas d'armes comme les rebelles. Nous pouvons.
Est-ce que vous compléter, M. Sambaï? Madame, il faut dire ceci. La mise en place de tels exercices commence toujours par des débats, par des réflexions qui sont approfondies au fur et à mesure du temps et qui sont complétées par les apports des différents acteurs. Donc, on ne peut pas, ne faites pas le grief de dire que nous sommes encore des idées en l'air avant de, l'idée précède toujours la matière, l'idée précède toujours les actes.
Et on pourrait attendre encore 10 ans avant que ce soit concrétisé.
Non, madame.
Que, oui, monsieur Moukadi Boni,
on ne peut pas attendre 10 ans puisque le gouvernement lui-même, c'est depuis 2003 Dieudonné l'a rappelé, le gouvernement lui-même a demandé que les conseillers de sécurité puissent effectivement prendre cette résolution-là. Donc, après avoir demandé, il fallait écrire, introduire une requête, c'est ce qui manque. Et là, on ne peut pas faire grief à des professeurs de droit, à des magistrats ou à des militants des droits de l'homme de ne l'avoir pas fait. Ce sont ceux qui sont payés pour faire la requête qui doivent l'introduire.
Qui exactement?
Les gouvernants, précisément.
Merci beaucoup. Donc, nous recevons encore notre consoeur Thérèse Boissoubi pour une deuxième vague des opinions qui sont arrivées en cours même de l'émission. Thérèse Boissoubi, encore une fois, bonsoir.
Bonsoir, André Munganga. Nous allons commencer par Mota Basile de Lubumbashi et Gertrude Biayandaya de Mbujima qui pensent la même chose. Pour une bonne réconciliation et une justice parfaite, nous souhaitons l'installation de ce tribunal dans notre pays en vue de juger même les responsables de refoulement des Kasaïens au Katanga. Papi Siméon de Boutembo, Nord Kivu, que les malfaiteurs soient jugés et que les victimes participent au procès pour une meilleure justice. Philémon Abeni, que justice soit faite sur tout, pour tout massacre au Congo, que les Congolais votent un président qui a les mains propres pour instituer cette justice. Denis Moustafiri, il faut un tribunal plus important que celui du Rwanda. Les crimes n'ont pas été seulement commis contre la population, mais aussi contre la nation, contre nos militaires impayés devenus des voleurs à main armée et bien d'autres faits à dénoncer. Si le 1 plus 4 s'accorderont le pardon, moi je ne le ferai pas. Je souhaite vivement l'installation de ce tribunal.
Et oui, on commence par M. Sambaï Lukusa. Qu'est-ce que vous pensez de ces réactions des auditeurs brièvement parce que nous tendons vers la fin de notre émission?
Je suis très content que notre population finisse par comprendre, finisse par prendre conscience des responsabilités qui doivent en général préoccuper toute population censée s'occuper de ses intérêts. Je pense que l'opinion nationale est maintenant suffisamment informée que dans tout ce qui est en train de se faire maintenant, il faut prendre soin de ne pas remettre aux commandes de la République les gens qui ont les mains sales, les gens qui ont tué, qui ont pillé, qui ont volé, qui ont violé, qui ont violenté. Je suis très satisfait de cette prise de conscience.
Monsieur Moukadi Boni, qu'est-ce que vous pensez également de ces réactions des auditeurs?
Ce sont des très bonnes réactions qui démontrent effectivement que les auditeurs ont compris ce qui doit être fait. Et il faut absolument aller de l'avant. On doit faire en sorte que tout celui qui commet un acte puisse en répondre. C'est ça le message. Et puisque bientôt on va arriver à un moment fatidique, si j'ose dire, il faut d'ores et déjà que la population puisse faire le choix et le bon choix en se souvenant de qui a fait quoi. Le président du syndicat vient d'en parler avec force détail. Lorsqu'on a volé, violé, tué, etc., on n'a pas le droit à une quelconque bienveillance de la part de la population qui a été
martyrisée. Oui, on passe également la parole à Dieudonné Dikou, qui est secrétaire général de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, pour une réaction par rapport à ces opinions des auditeurs, et brièvement, parce que nous tendons vers la fin de notre émission.
Je note avec satisfaction cette soif légitime de justice des populations congolaises. Il faut que cette soif de justice soit rencontrée par la mise en œuvre, par la mise sur pied rapide d'un mécanisme judiciaire approprié pour connaître de ces crimes. Et avant de terminer, je souhaiterais, mon désir le plus ardent serait que ces élections puissent constituer une occasion pour les Congolais de balayer tous ceux qui, de l'un ou de près, sont des auteurs présumés des crimes internationaux graves et des violations des droits de l'homme que notre pays a connus. Sinon, l'avant les élections risque d'être égal après les élections.
Donc, quel que soit le nom que portera cette institution, il faut que les crimes d'un 20 juillet 2002 soient également punis. Merci donc à vous, chers invités, d'avoir répondu à cet appel. Je rappelle que cette émission sera rediffusée demain matin à 4h45 de Kinshasa. Vous pouvez également la retrouver sur www.radioocapi.net. Et c'est ici que nous mettons un point final à cette page des dialogues entre Congolais. Prochain rendez-vous donc demain. Au revoir et à la prochaine.